Dès qu'il fut touché par la maladie, il dit « Malheur, je crois que je deviens un dieu. » Suétone, Vie de Vespasien, chapitre 23.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Cette citation, tirée donc de la vie des 12 Césars, la vie de Vespasien par Suétone, est empreinte d'un certain humour, mais aussi d'une certaine réalité politique et religieuse. Certain humour parce que quand Vespasien s'est senti malade et près de la mort, et qu'il a annoncé qu'il était en train de devenir un dieu, il y avait sans doute chez lui une part d'ironie. Mais il y a aussi une grande part de vérité parce que, à l'époque des Flaviens, et depuis déjà un moment, depuis l'instauration du Principat par Auguste, s'est développé dans le monde romain ce que l'on appelle le culte impérial. À vrai dire, l'idée que quelques grands hommes pouvaient avoir une part de sacré et une part de divinité n'est pas totalement née avec l'Empire. Au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, des personnes comme Sylla, comme Pompée et bien entendu comme Jules César ont prétendu à une certaine divinité et en tout cas une partie de la société les a vus comme méritant des représentations et une certaine vénération qui les rapprochait des dieux. Au demeurant, César a développé lui-même l'idée qu'il est descendu d'Aînée et de la déesse Vénus. Au demeurant aussi, il est vrai que Auguste, une fois qu'il a été au pouvoir en 27 avant Jésus-Christ, a dressé un temple à César divinisé, puisque dès le moment où il y a eu les funérailles du dictateur assassiné, certains témoins ont affirmé qu'ils avaient vu s'élever dans le ciel l'âme du défunt emportée par un aigle. Il y avait bien sûr là tout un aspect politico-religieux qui était appelé à se développer. En effet, dès le règne d'Auguste, donc entre 27 avant Jésus-Christ et 14 après, se met en place le culte impérial. Il faut distinguer sans doute à ce moment-là la partie orientale et la partie occidentale de l'Empire. Dans l'Empire, aspect oriental, la tradition des souverains divinisés était assez importante. En Égypte, par exemple, les empereurs romains et Auguste le Ier n'ont fait que se lover, que se mettre dans la peau des pharaons qui étaient considérés par leurs sujets comme des représentants divins. Et d'autre part, dans les monarchies hellénistiques que Rome a réussi à vaincre au IIe et Ier siècle avant Jésus-Christ, il y avait une tradition d'une aura divine qui entourait les souverains. De ce point de vue-là, en Orient, les empereurs romains n'ont fait que reprendre une antique tradition. En Occident, la tradition était différente. Il n'y avait pas véritablement de tradition qui faisait du souverain ou du chef politique un dieu. Mais il se trouve que progressivement, on a édifié en Occident des temples où l'on priait effectivement le génie d'Auguste. Celui-ci d'ailleurs a toujours refusé d'être divinisé de son vivant. Mais on pouvait prier le génie d'Auguste et après son décès, en 14, le Sénat a voté la divinisation du souverain défunt et là on a vu se dresser dans l'Empire, y compris en Occident, toute une série de temples. Songeons par exemple, pour ne parler que de la Gaule, de temples d'Auguste et de Livie, épouse d'Auguste, qui se trouve à Vienne, dans l'actuel département de l'Isère, ou alors la maison carrée de Nîmes, qui à l'origine est un temple dédié aux petits-fils d'Auguste, Caius et Lucius. Car effectivement, le phénomène de divinisation n'est pas resté concentré dans la personne de l'empereur, mais également pour les membres de la famille. D'autre part, le souverain avait des titres particuliers. Il était par exemple père de la patrie, pater patriare, ce qui veut dire que effectivement, par ce titre, il avait une connotation religieuse de protecteur et de père de son peuple ou de ses peuples. Et il y a eu donc la création aussi d'un clergé qui était destiné, dans tout l'Empire, à veiller aux divers sacrifices et aux divers cultes que l'on devait rendre à la personne de l'empereur défunt, ou bien à son genius, voire à son numen, à son nom propre. Donc, il y a eu, à partir d'Auguste, indéniablement une évolution vers une sacralité impériale. Par contre, et c'est quelque chose d'important, c'est le Sénat qui décidait de la divinité de l'empereur après sa mort, de le placer parmi les dieux. Et de ce point de vue-là, le Sénat disposait d'un pouvoir non négligeable, parce que s'il pouvait placer l'empereur parmi les dieux, il pouvait aussi condamner sa mémoire. Il y avait la damnatio memoriae qui consistait finalement à essayer d'effacer la mémoire de celui qui avait régné pendant un temps sur le monde romain. C'est le cas par exemple au 1er siècle de notre ère, de Caligula, assassiné en 41, de Néron qui s'est suicidé en 68, ou bien de Domitien qui est éliminé en 96. Par contre, Claude reçut l'apothéose, même s'il est fort probable que c'est peut-être son épouse qui l'a emporté vers l'autre monde. De même, Vespasien, de même Titus. Et quant au second siècle, il y a eu indéniablement de nombreux empereurs divinisés, Trajan, le meilleur des empereurs, dit-on, Adrien, et de ce point de vue-là, il a fallu que son successeur Antonin fasse des efforts tout particuliers, parce que le règne de l'empereur Adrien, en particulier les dernières années du règne, avait été marqué par des conflits ouverts avec le Sénat. C'est pour cela que Antonin mérita le surnom de Antonin le Pieux, parce qu'il était plein de piété vis-à-vis de son prédécesseur. Quant à Antonin le Pieux, cela ne fut pas une surprise. Il gouverna dans la tranquillité, en collaboration et en harmonie avec le Sénat, et fut placé parmi les dieux. Cette politique du culte impérial a marqué la topographie de la ville de Rome elle-même. En effet, on voit encore aujourd'hui les vestiges de grands temples impériaux. Sur le forum lui-même se dresse encore la splendide colonnade du temple d'Antonin et de Faustine, l'impératrice Faustine décédée une vingtaine d'années avant son époux. Ou bien sur les forums impériaux, il y avait donc le temple de César divinisé, déjà signalé, mais aussi, sur l'immense forum de Trajan, un temple à la divinité de Trajan, puisqu'il avait été porté parmi les dieux après son décès en 117. Claude a eu droit aussi à un immense temple sur l'Esquilin. Quant à Adrien, eh bien, on peut observer, pas très loin du Panthéon et de la Piazza Colonna à Rome, eh bien, ce qui reste du temple d'Adrien, qui abrite aujourd'hui la chambre de commerce et d'agriculture de la ville. Mais il faut avouer aussi qu'il y a une difficulté peut-être vis-à-vis de ce culte impérial, c'est par rapport aux Juifs et aux chrétiens. En effet, pour les monothéistes, eh bien, il y a un problème à adorer une divinité impériale. On peut respecter l'autorité de l'empereur, mais de là à le considérer comme un dieu, cela est indéniablement problématique. Les Romains, vis-à-vis des Juifs, avaient autorisé que l'on puisse non pas prier l'empereur lui-même, ni même le genius de l'empereur, mais que l'on fasse des prières dans les synagogues pour le salut de l'empereur et le salut de l'empire. Ainsi, on évitait quelque peu la profanation et l'aspect idolâtre que cela aurait pu représenter vis-à-vis des Juifs. La même question se pose pour les chrétiens. Est-ce que la foi chrétienne est compatible avec l'adoration d'un homme, même après sa mort, ou progressivement au IIIe siècle de son vivant? Or, c'est indéniablement une difficulté qui a provoqué les persécutions. Une des raisons des persécutions fut effectivement l'incapacité des chrétiens, la non-volonté des chrétiens, au nom du respect de leur foi, de sacrifier à l'empereur et de faire brûler un peu d'encens sur l'autel impérial qui se trouvait dans les diverses villes de l'Empire. Nous tenons là, sans doute, une des pierres d'accroche des difficultés entre le pouvoir impérial et les chrétiens. Quant aux empereurs chrétiens, eh bien, ils se sont progressivement glissés dans un autre type de rapport vis-à-vis de la société. Constantin, qui se convertit aux alentours de 312-313, reste le grand pontife, titre que occupaient déjà César et Auguste, et il continue à favoriser le culte impérial, mais tout en soutenant la religion chrétienne, c'est-à-dire que il fait une espèce de cohabitation entre la tradition impériale et la nouvelle religion. Progressivement, on va abandonner au IVe siècle l'idée d'une divinité du vivant de l'empereur, ou même après sa mort, mais le cérémonial romain du IVe siècle a continué à exiger de s'agenouiller aux pieds du souverain selon le rite de l'adoration de la proskynèse. Ainsi, ce culte impérial avait bien été un élément extrêmement important de l'idéologie impériale et avait essayé de fédérer les divers peuples qui formaient l'Empire romain.